France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous au programme aujourd'hui, la seconde partie de l'entretien que Martine Kaufmann avait enregistré avec Esteban Bourg en 2009 à propos de son livre « La neuvième de Beethoven, une histoire politique ». Au cours de cette émission, Esteban Bourg évoque les différentes récupérations politiques dont a fait l'objet la 9e symphonie de Beethoven et en particulier son final, l'Ode à la joie, que l'on a retrouvé au fil de l'histoire dans la bouche de bourreaux et aussi de victimes. Il sera question aussi du problème posé par la version de l'Ode à la joie choisie pour incarner l'hymne européen et aussi de quelques variations aussi originales qu'inattendues. Esteban Bourg était l'invité de France Musique le 6 juin 2009.
Double fugue de l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Ludwig van Beethoven avec le chœur Arnold Schönberg de Vienne, l'orchestre de chambre d'Europe et la direction de Nikolaus Arnoncourt. Dans votre ouvrage, Esteban Bourg, vous montrez aussi comment le culte de Beethoven va accompagner le culte de la 9e. C'est-à-dire qu'à partir de l'érection en 1845 de la statue de Beethoven, il y a une sorte de consécration de Beethoven comme grand musicien, comme appartenant à tous les panthéons en quelque sorte. Et vous montrez aussi le rôle de Liszt l'européen, pourrait-on dire, qui donne de l'argent et qui préside d'une certaine façon à ces fiestas de 1845, dont le récit est assez savoureux d'ailleurs chez vous, parce que ça ne s'est pas très très bien passé, ni pour Liszt, ni pour ceux qui ont assisté au dévoilement de la statue.
Oui, je précise avant qu'en 1845, c'est donc le moment de l'érection de cette statue à Bonn. En fait, l'histoire de la panthéonisation commence un peu avant.
Oui,
déjà au moment de sa mort,
disons
en 1827,
il y a
toute cette figure publique, elle est déjà installée. Mais effectivement, quand on en vient à l'histoire de 45 et de la statue, il y a une sorte d'apothéose, disons, de la construction du génie, comme dirait Thierry Denora. Et ça s'exprime par un festival qui est très savoureux parce que catastrophique. Alors, Alors je pense que pour les gens à l'époque, c'était moins savoureux, mais quand on regarde les péripéties de ces jours-là, ça peut prêter à sourire. Et en même temps, chacune de ces péripéties, enfin je ne peux pas toutes les raconter, et puis ça donnera envie d'aller voir.
Non mais ça donnera envie de vous lire, parce que moi j'ai trouvé que c'était un des passages les plus amusants de votre
oui,
ouvrage.
Oui, moi j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour cette histoire, parce que bon, par exemple, pour résumer une anecdote, la reine Victoria vient avec le roi de Prusse, et donc ils sont installés là, sur la place publique de Bonn, et au moment où la statue est dévoilée,
le 12 août 1845,
merci, la reine se retrouve face à une statue qui lui tourne le dos.
Alors, franchement, comme on n'a pas le droit de tourner le dos à la reine.
et donc, scandale, comment les organisateurs n'ont pas prévu que la statue était placée du mauvais côté, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout de suite quelqu'un pour dire, ah mais précisément, la figure de Beethoven n'a pas besoin des souverains pour être ce qu'elle est, et ainsi de suite. Et puis aussi, autour de Liszt, il y a des tas de problèmes, parce que Liszt est un peu une vedette, la star que l'on connaît, et donc il prend pour lui la responsabilité d'achever la statue, donc il donne beaucoup d'argent et il s'engage dans l'organisation,
il fait des concerts. Il engrange de l'argent pour la statue.
Et en même temps, il n'arrête pas, en quelque sorte, de polariser des hostilités qui sont autant des hostilités liées à son personnage, trop voyant, trop bruyant, trop glamour, ou tous les mauvais sens du terme, et aussi pour des raisons politiques, c'est-à-dire que Liszt est un personnage européen, comme vous avez résumé, qui circule partout, mais qui en même temps n'arrête pas de faire des gaffes quelque part, par exemple, parce qu'il oublie au moment du toast final de parler des Français, et donc il y a un Français nationaliste pour dire « vous avez oublié les Français », et donc du coup, cette belle fête européenne est complètement sabotée par les pulsions nationalistes, y compris d'ailleurs des éléments antisémites, et ainsi de suite. Donc ça s'achève sur une sorte de catastrophe. « Very bad was the ending », je crois que c'est la phrase d'un Anglais pour résumer la chose. Et en même temps, le personnage qui avait organisé ça, qui était un certain Breidenstein, professeur d'histoire de la musique à Bonn, dit « oui, mais il ne faut pas regarder ça avec des lunettes noires, la statue, elle est toujours là ». Bon, et c'est vrai, elle est toujours là, sauf que, bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Une statue, il faut dire, ça veut dire quelque chose à l'époque, 1845, rendre hommage à un musicien, c'est pas aussi banal qu'aujourd'hui.
Pas évident,
et de ce point de vue, ça marque effectivement un moment important dans l'idée qu'il y a bien un patrimoine qui est culturel, défini par l'art, et que ce patrimoine est commun et peut être partagé malgré les frontières. Et ça, c'est un fait historique important.
Et il nous reste aussi une cantate de Liszt.
Oui.
Qu'on va entendre à présent. On va entendre le chœur final qui parle des vagues de la mer et des peuples qui se succèdent. Mais le génie, effectivement, reste les pieds baignés par ces vagues. Voici donc cet extrait de la cantate Beethoven de Liszt pour l'érection de la statue en août 1845.
Thank you.
une cantate pour Beethoven composée par Liszt, donc pour la consécration du génie, l'inauguration de la statue de Beethoven. Cette cantate dont nous entendions le dernier chœur était interprétée par le Kölner Kantorei, la Capella Coloniensis, sous la direction de Bruno Weil. Nous allons franchir un peu comme les vagues de l'océan, Esteban Bourg, les années, pour parler, à travers votre ouvrage, la 9e de Beethoven, une histoire politique, pour parler des diverses annexions qu'a subies à la fois et Beethoven et la 9e symphonie, notamment l'annexion wagnérienne, qui prépare d'une certaine façon l'annexion national-socialiste, puisqu'il n'y a qu'une musique qui a droit de citer à Bayreuth en dehors de Wagner, c'est la 9e de Beethoven.
Oui, ça c'est l'idée de Wagner lui-même, qui dès la cérémonie de la pose de la première pierre en 1872 pour son théâtre, fait jouer la 9e à Bayreuth. Mais tout ça c'est déjà en quelque sorte décrit comme un projet politique dans son texte de 1870, qui est son fameux essai Beethoven pour le centenaire de la naissance de Beethoven, donc, et qui inclut des références très très hostiles aux Français, pour une raison évidente, c'est que ça correspond en gros à l'époque de la guerre franco-prussienne.
Oui, il a eu écrit un texte contre les Français à ce moment-là.
Oui, Wagner dit « La guerre est un festival Beethoven ». Donc on voit bien que là, on n'est pas du côté du Wagner universaliste et disons deuxième acte de Tristan, mais bien de celui qui a le casque prussien déjà en quelque sorte rivé sur la tête. Enfin là, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur comment on peut éviter les pièges d'anachronisme, disons, en disant que par exemple Wagner est déjà un nazi. Mais si l'on regarde les choses dans la séquence chronologique, c'est sûr que la dimension nationaliste de son essai Beethoven en 1870, plus ce que va être le projet Bayreuth à l'époque, non seulement de Wagner, mais surtout de sa femme, Cosima, avec Stewart Chamberlain comme acolyte, disons, tout ça est très proche des positions de l'extrême droite allemande, ce que les nazis vont bien sûr reprendre à leur compte, sans devoir vraiment modifier en quoi que ce soit les discours. Ils sont là, noir sur blanc.
Oui, puis en plus, Hitler aime beaucoup la 9e symphonie, paraît-il.
Alors oui, et puis Hitler est le wagnérien que l'on sait, donc oui, tout oui. Ça fait sens, et bon, le fait que le texte parle de « tous les hommes deviennent frères », au bout du compte, ça pèse pas très lourd face à cette machine d'appropriation nationaliste.
Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que la réouverture du festival de Bayreuth, le 29 juillet 1951, se fera tout simplement avec la 9e, et on en a d'ailleurs les échos sonores, puisque ça a été pris sur le vif par la radio allemande. Et qu'est-ce qui dirige l'orchestre du festival de Bayreuth? Eh bien, tout simplement, Wilhelm Furtwängler, qui, que je sache, était resté à la tête des forces de son orchestre pendant toute la guerre. Donc, finalement, les choses continuent de tourner.
Alors, les choses ont tourné. Alors, le cas Furtwängler, comme vous savez, est d'une complexité
assez
considérable.
Grande,
ouais. Moi, je dis toujours, je ne comprends pas les gens qui ne se résignent pas à ne pas l'aimer. C'est-à-dire que pour Furtwängler, il y a des tas de choses qu'on peut dire en sa faveur pour ce qui est de ses années du Troisième Reich. Il a aidé des musiciens juifs, il a protesté contre des abus de pouvoir, etc. Mais le fait est qu'il est resté là, à son poste, et qu'il a participé de manière assez active à la politique culturelle du Reich. Bref, bon, on pourrait faire toute une émission sur ça, c'est pas le moment. En tout cas, en 51,
mais ça prouve bien la complexité du rapport d'un individu à sa nation, quel que soit le régime qui dirige la nation en question, et ça prouve bien aussi la complexité de l'œuvre beethovenienne par rapport à toute la réception qu'on peut en faire. Beethoven, Molto Vivace de la 9e symphonie, un extrait par Wilhelm Furtwängler à la tête de l'orchestre du festival de Bayreuth, le 29 juillet 1951. Thank you. Wilhelm Furtwängler à la tête de l'orchestre du Festival de Bayreuth pour la réouverture du Festival de Bayreuth le 29 juillet 1951. Il dirigeait donc le scherzo de la 9e symphonie dont nous avons entendu la fin. Dans votre ouvrage Esteban Bourg, vous montrez un cas d'assimilation de la 9e à un hymne avant l'hymne européen, c'est celui de la Rhodésie. Moi, j'ignorais totalement que la Rhodésie avait eu comme hymne l'ode à la joie. En plus, c'est la Rhodésie de l'apartheid. Hein. Ce n'est pas la Rhodésie d'aujourd'hui qui n'existe plus d'ailleurs, qui s'appelle le Zimbabwe, si je ne m'abuse.
Oui, ce qu'il y a de troublant dans l'histoire de l'hymne de la Rhodésie, c'est que c'est précisément ce fameux chant de la fraternité universelle qui est, disons, mis au service de l'apartheid, tout simplement. Et de ce point de vue, c'est ce type de paradoxe qui est au cœur aussi de l'utilisation de la 9e par les nazis et dans d'autres contextes où c'est associé, disons, au totalitarisme sous toutes ses formes. Donc c'est un peu anecdotique parce que l'hymne de la Rhodésie, ça n'a pas duré longtemps, parce que la Rhodésie, effectivement, n'a pas duré longtemps puisque le gouvernement blanc de l'époque de Ian Smith a été renversé par Mugabe, qui à l'époque n'était pas le tyran que l'on a l'habitude de voir aujourd'hui dans les journaux, mais un personnage en couleur, certes, mais enfin... un guerrier de la libération, comme on l'appelait à l'époque. Mais enfin, comme anecdote, c'est parlant parce que ça montre ce potentiel, effectivement, d'appropriation.
Et vous montrez aussi dans les derniers chapitres de votre ouvrage donc comment on en arrive à l'hymne européen d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'adoption par le Conseil de l'Europe en janvier 1972 d'une version sur laquelle on va revenir de la musique de Beethoven et puis son utilisation avec le drapeau de l'Union à partir de 1986 par l'Union européenne. Alors, il y a des choses très très savoureuses que vous racontez, c'est-à-dire la recherche éperdue d'un drapeau, ça s'est assez vite fait finalement, les étoiles sur le fond bleu. Mais la recherche d'une musique, il y a la question de la langue aussi, ce qui fait que l'hymne européen est un hymne sans parole, ce qui est quand même un petit peu paradoxal, ou alors il faut vraiment croire à la toute-puissance de la musique. Et puis vous avez publié récemment dans Le Monde, daté des 3 et 4 mai, un article que l'éditeur a sous-titré « L'hymne qui sent le soufre », puisque vous faites remarquer que l'hymne européen est dû à Herbert von Karajan, et que bon... la personnalité d'Herbert von Karajan et son attitude pendant les années de guerre est sujette à caution pour diriger une version officielle, puisque c'est une version où il a fait quelques montages pour arriver à l'hymne européen.
Oui, en effet, je continue de penser que c'est quelque chose de troublant que d'avoir l'hymne d'une Union européenne qui se veut fondée sur la démocratie et les droits de l'homme, que cet hymne donc soit l'œuvre, et je dis bien l'œuvre de un ancien membre du parti nazi. Et je dis ça de manière très précise, d'abord au sens où l'œuvre, la définition de c'est l'œuvre de Karajan, elle découle du fait que ça a un statut d'œuvre reconnue par des droits d'auteur, donc c'est au sens juridique du terme que c'est l'œuvre de Karajan, et ensuite au sens où l'appartenance au parti nazi qui est avérée pour toute la période qui va de 1935 jusqu'en 1945 et qui est préludée par une tentative d'inscription au parti en 1933, je dis bien 33, donc c'est très tôt, surtout pour un citoyen autrichien, pas un citoyen allemand. Donc cette appartenance au parti est quelque chose qui marque historiquement ce symbole, au-delà de toutes les discussions, et on sait qu'elles ont été très intenses et qu'elles continuent, sur pourquoi Karajan a adhéré au parti. Est-ce que c'était pour avoir, à l'époque, le poste de Kapellmeister à Aix-la-Chapelle. Enfin, il y a des tas d'arguments que les admirateurs de Karajan ont avancé pour essayer de justifier en termes non idéologiques cette adhésion. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par ces arguments, mais je dis, laissons de côté les raisons, les motivations. Le fait est, de manière très précise, l'hymne européen est l'œuvre d'un ancien membre du parti nazi. Je pense que c'est quelque chose de regrettable et même de troublant historiquement. Voilà, c'est l'essentiel de ce que j'essayais de dire dans cet article, en effet. Et c'est vrai que ça renvoie non seulement à la carrière de Karajan et à la question de la 9e symphonie comme objet culturel, comme patrimoine européen, mais à la question de qu'est-ce qu'un hymne de l'Europe et, partant, qu'est-ce que l'Europe ? Parce que les perplexités des responsables des institutions européennes que vous avez évoquées, par exemple, en disant il n'y a pas de parole, la question des langues, sont liées au fait que, et c'est un mérite, que l'Union européenne n'est pas une nation, par définition, n'est pas non plus une institution qui est, qui plane dans l'espace des organismes internationaux. C'est une construction originale, et donc le type de symbole qu'il faut lui donner est quelque chose de non fixé par la tradition. Alors personnellement, je regrette que dans le cas de l'hymne, cette originalité était en quelque sorte neutralisée par ce choix qui me semble malheureux de Karajan comme interprète, disons, comme opérateur de ça. Et je dis opérateur au sens médiatique du terme, parce qu'en fait, la signature de Karajan en bas de cet hymne s'explique pour des raisons d'opportunité. À l'époque, en 72, Karajan était le musicien le plus puissant d'Europe, il était sans doute le plus connu du grand public, le secrétaire général du Conseil de l'Europe le connaissait personnellement, donc de ce point de vue, d'opportunité politique, on comprend pourquoi il s'est tourné vers lui, en sachant que la question de la mémoire de la Shoah et la question plus générale de que faire avec le legs de la Seconde Guerre mondiale n'avait pas la même acuité. En tout cas, ça se présentait différemment façon, dans les années 70. Mmh. Donc, quitte à dire, on comprend qu'en 72, on ait pu faire ça, ce n'est pas gravé dans le marbre, il n'y a pas de raison de s'en contenter aujourd'hui. En tout cas, c'est mon avis.
Beethoven, arrangé par Herbert von Karajan, l'hymne européen, enregistré donc en 1972, au moment où le Conseil de l'Europe choisit cet arrangement de Herbert von Karajan comme hymne pour les pays qui constituent le Conseil de l'Europe avant que l'Union européenne n'en adopte à son tour en 1986. Je remarque, Esteban Bourg, que Herbert von Karajan est du côté de ceux qui jouent ça lentement. Parce que les baroqueux, entre guillemets, je pense à Philippe Hervaeg ou à Nicolaus Harnoncourt, ont tendance aujourd'hui à presser les tempi dans la 9e symphonie de Beethoven, ce qui fait d'ailleurs d'assez grosses différences dans les versions.
Oui, à ceci près que là, Karajan joue lentement selon sa propre partition qui, elle, prévoit bien un tempo lent, ce qui fait l'un des aspects, les seuls aspects vraiment nouveaux dans ce fameux arrangement de Karajan, dans la mesure où, pour ce qui est des notes, disons, il prend trois morceaux de Beethoven, il les met en copier-coller et c'est à peu près tout. Donc, le fait de l'inscrire dans une logique rituelle, cérémoniale, c'est un peu... Bon, la conséquence, c'est cette lenteur un peu pesante et... En tout cas, très étatique.
Vous m'avez amené un disque très drôle, disque du Conseil de l'Europe, donc qui propose des variations à l'usage des populations européennes, qui propose des variations, toutes sortes de variations. On va en entendre quelques-unes. Alors, on voit ce qu'on peut faire d'un objet sonore non identifié qui s'est quelquefois appelé Ode à la joie de Ludwig van Beethoven et qui peut prendre là des aspects divers et variés. Variations sur la diversité européenne, les versions diverses et variées, trance, hip-hop, jazz, de l'hymne européen. Vous avez voulu, Esteban Bourg, qu'on termine cette relecture de votre ouvrage, La 9e de Beethoven, une histoire politique, qui est parue chez Gallimard, qui est toujours disponible, qui est parue il y a une dizaine d'années. Vous avez voulu qu'on termine par Orange Mécanique. C'est un peu cruel.
C'est peut-être cruel, mais en même temps, ça a ce côté... J'allais dire amusant, c'est peut-être pas amusant parce que Orange Mécanique est un film assez sinistre et assez
très dur à regarder.
Pour ce qui est de l'utilisation de la musique dans une logique de la musique de Beethoven, très concrètement, dans une logique violente qui est à la fois la violence de son personnage principal et la violence de l'État, d'un État totalitaire qui répond donc à cette violence de l'individu, disons. Donc, je ne sais pas, je dis que c'est amusant quelque part, parce que là, on vient d'écouter cette version hip-hop, ça nous fait un peu sourire. En même temps, il faut quand même reconnaître que ça part d'un bon sentiment,
oui,
on va dire ça
bon
comme
sentiment.
Ça, à savoir l'idée qu'il faut reconnaître la diversité des styles, la diversité des cultures, et que l'Europe, en tant que...
Mais on n'a peut-être pas besoin de se servir de la joie pour ça, on peut faire original sans...
oui, ça c'est, on n'a plus le temps d'entrer. Le problème, c'est que le quand un style est pris en charge par l'État, ça produit immédiatement une distance par rapport à ce moment spontané de production populaire ou collective que l'on voudrait en même temps honorer ou valoriser. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui est impossible à résoudre et que l'on peut en même temps élaborer dans une forme artistique. Et je crois que Orange Mécanique de Kubrick, le roman d'ailleurs de Burgess d'abord, mais ensuite le film, est l'un de ces objets, pour le coup, identifiés qui nous mettent face à cette perplexité, à ce malaise, hein, parce que c'est un film dur, et en même temps face à une expérience qui est d'ordre esthétique, parce que je pense que l'arrangement qu'on va entendre, qui est l'œuvre de Walter Carlos, plus tard Wendy Carlos, est un bon exemple de comment on peut prendre cet objet tellement dévalué par l'usage, tellement devenu un lieu commun, et le faire dire quelque chose. Et lui faire dire quelque chose, c'est le faire parler comme une orange mécanique, c'est-à-dire quelque chose qui est un organisme vivant, et qui en même temps, dans le bruit de la civilisation moderne, se retrouve travaillé par ce qui est inhumain, ce qui est mécanique, ce qui est mort quelque part. Et la musique le montre, je crois. Deine Zungen, deine Zungen, viele Dinge, so wie seine Zungen, die dein Musik, die mich denkt, der Mann, der sich wieder rät,
avec la musique de la bande originale du film Orange Mécanique de Stanley Kubrick que nous quitterons Esteban Bourg, qui était mon invité aujourd'hui pour La 9e de Beethoven, une histoire politique, un ouvrage paru dans la bibliothèque des histoires édition Gallimard il y a une dizaine d'années. Alors à l'époque, ça coûtait 165 francs. Je laisse à nos auditeurs le soin de convertir ces 165 francs en monnaie européenne d'aujourd'hui. Équipe de réalisation, Xavier Lévesque et Françoise Cordet.
C'était Note contre note, une émission de Martine Kaufmann, diffusée sur notre antenne en 2009. Elle avait pour invité Esteban Bourg pour son livre consacré à la 9e symphonie de Beethoven.
Les trésors de France Musique.
Je vous propose de conclure nos trésors à l'écoute de l'intégralité du final de la 9e symphonie de Beethoven sur l'Ode à la joie de Schiller, une version enregistrée en 1996 par Claudio Abbado avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, le chœur de la radio suédoise, avec en soliste la soprano Jen Eagland, la mezzo Waltraudmayer, la basse Brinterfell et le ténor Ben Heppner. C'était le final de la 9e symphonie de Beethoven avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin, le chœur de la radio suédoise, sous la baguette de Claudio Abbado. Ainsi se referment nos trésors que vous pouvez réécouter à l'envi en vous abonnant au podcast via l'appli Radio France et sur le site radiofrance.fr. Merci à Béatrice Trichet pour la réalisation ainsi qu'aux documentalistes de l'INA pour leur collaboration.
À réécouter sur francemusique.fr.